Le sort du tyran est bien digne d'envie, si tels sont les amis et les familiers qu'il lui impose, après qu'il aura détruit ce dont nous avons parlé. Voilà ses seuls amis. Ses compagnons du tyran l'admirent. Ce sont là les nouveaux citoyens qui vivent avec lui, tandis que les honnêtes gens le haïssent et le fuient. Cela doit être. On n'a donc pas tort de vanter la tragédie comme une école de sagesse, et particulièrement Euripide. À quel propos dis-tu cela? C'est qu'Euripide a prononcé cette sentence d'un sens bien profond. Les tyrans deviennent habiles par le commerce des habiles. Voulant dire évidemment que leur société ne se compose que de gens habiles. Ah oui, il qualifie la tyrannie de divine et autre chose semblable, lui et les autres poètes. Aussi, les poètes tragiques ont-ils l'esprit trop bien fait pour trouver mauvais que, dans notre état et dans tous ceux qui s'en approchent par leur constitution, on refuse de recevoir les chantres des tyrans. Ceux d'entre eux qui seront un peu raisonnables ne sauraient s'en offenser. Quant aux autres États, ils peuvent les parcourir, y rassembler la multitude, et prenant à leur gage des voix belles, fortes, insinuantes, y répandre le goût de la tyrannie et de la démocratie. À merveille. Et y gagner encore de l'argent et des honneurs, surtout auprès des tyrans, comme c'est naturel, et en second lieu auprès des démocraties. Mais, à mesure qu'ils s'élèvent vers des gouvernements plus parfaits, leur gloire se lasse, manque d'haleine, et n'a plus la force d'avancer. Tu as raison. Mais ceci n'est qu'une digression. Revenons au tyran, et voyons comment il fera pour nourrir cette armée de satellites, belles, nombreuses, mélangées et renouvelées à tout moment. S'il y a dans l'État des temples riches, il les dépouillera, et tant que les produits de la vente des choses sacrées ne seront pas épuisés, il ne demandera pas au peuple de trop fortes contributions. Cela est évident. Mais quand ce fonds viendra à lui manquer, alors il vivra du bien de son père, lui, ses convives, ses favoris et ses maîtresses. Ouais, j'entends. C'est-à-dire que le peuple qui a donné naissance au tyran le nourrira, lui et les siens. Mais il le faudra bien. Mais quoi? Si le peuple se fâchait à la fin et lui disait qu'il n'est pas juste qu'un fils déjà grand et fort soit à charge à son père, qu'au contraire, c'est à lui de pourvoir à l'entretien de son père, qu'il ne l'a pas formé et élevé si haut pour se voir, aussitôt qu'il serait grand, l'esclave de ses esclaves, et pour le nourrir avec tous ses esclaves et ce ramas d'étrangers sans aveu, mais pour être affranchi, sous ses auspices, du joug des riches et de ceux qu'on appelle dans la société les honnêtes gens. Qu'ainsi, il lui ordonne de se retirer avec ses amis, du même droit qu'un père chasse son fils de sa maison avec ses turbulents compagnons de débauche. Alors, par Jupiter, le peuple verra quel enfant il a engendré, caressé, élevé, et que ceux qu'il prétend chasser sont plus forts que lui. Que dis-tu? Quoi? Le tyran oserait faire violence à son père, et même le frapper, s'il ne cédait pas. Oui, car il l'a désarmé. Le tyran est donc un fils ingrat, un parricide? Et nous voilà arrivés à ce que tout le monde appelle la tyrannie. Le peuple, en voulant éviter, comme on dit, la fumée de la dépendance sous des hommes libres, tombe dans le feu du despotisme des esclaves, échangeant une liberté excessive et extravagante contre le plus dur et le plus amer esclavage. C'est là en effet ce qui arrive, Socrate. Eh bien, Adimante, aurions-nous mauvaise grâce à dire que nous avons expliqué d'une manière satisfaisante le passage de la démocratie à la tyrannie et les mœurs de ce gouvernement? L'explication est complète, Socrate.